Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis avec deux administratrices du magazine Le Bec,
Administratrice. Patricia. Non, pas administratrice, on est deux membres du groupe, voilà.
Ah bah
tout
alors
simplement.
Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne.
Ouais.
Marie-Joseph, bonjour également.
Bonjour.
Et puis Amajdou avec nous pour, si tu veux, poser des questions, faire
Merci.
Comme tu as envie.
Bonjour.
Voilà, alors parlez-nous de Le Bec, ce magazine qui est dans le Crétois, ça par contre je ne me trompe pas ?
Oui,
voilà.
Non, vous ne vous trompez pas.
Très bien, et qui aujourd'hui propose notamment en ligne sur son site internet un magazine pour sortir du patriarcat, mais avant ça quand même, il a eu une première époque, comme journal, j'allais dire, plutôt classique. Vous nous le présentez, cette époque-là, Marie-Jo ?
Eh bien, ça n'a jamais été un journal classique, c'est toujours un journal numérique. Donc, il n'y a jamais eu de version papier. Le Bec première version était défini comme un pur player local et rural, qui avait comme ambition de donner des informations pertinentes sur l'ensemble du Val-de-Drôme. En réalité, et qui a existé entre janvier 2019 et la fin 2020.
C'est quoi, ça veut dire quoi, pure player?
Ça, c'est la définition qu'en donnait François Bouys, qui était le fondateur du Bec. C'est en réalité un journal qui a toujours voulu parler d'une façon multiple, c'est-à-dire des textes, des podcasts, des vidéos. L'ambition était de parler de la région, de ce qui se passait dans notre région, avec pas mal d'interviews de personnalités connues ou non connues, mais qui faisaient des choses intéressantes dans notre région.
Voilà, vous alliez autant dans la politique que dans l'actu locale. J'avais lu des articles sur, par exemple, Biovallée, enfin, qui sont des choses, voilà, c'était très divers.
Fait. Ouais. Tout à fait, c'était très divers. Moi, je tenais une rubrique sur l'histoire de l'alimentation, l'histoire de l'aubergine, de la tomate, des choses comme ça. Et il y avait l'originalité du Bec première version, c'est que il y avait un certain nombre de contributeurs bénévoles, mais la majorité des interviews étaient faites par des journalistes.
Salarié.
Journaliste salarié. Contrairement à la deuxième version du Bec, sortir du patriarcat, où on a changé complètement la façon de fonctionner, le thème et le public. C'est-à-dire que le Bec numéro 1 s'adressait aux gens de la vallée ou aux gens qui voulaient des informations sur la vallée. Alors que maintenant, je dirais que ça s'adresse au public francophone du monde entier, s'il le veut, et s'il nous connaît.
Pourquoi ce changement de cap ?
Oh, pour une raison très simple, c'est que le Bec numéro 1 fonctionnait avec des abonnements, et il n'y avait pas tout à fait suffisamment d'abonnés pour faire vivre le Bec sous cette forme-là. Et on se retrouvait en partie en concurrence avec tous les médias locaux. À un moment donné, François a dit on arrête expérience. Ça a été enrichissant, très intéressant, mais on arrête expérience et on va essayer de faire autre chose. Et il avait envie de réfléchir au patriarcat et à tous les problèmes que pose ce concept du patriarcat, c'est-à-dire la supériorité de l'homme sur la femme. Et du coup, il a embarqué avec lui une partie de l'équipe de l'ancien Bec et des gens complètement différents pour le nouveau Bec.
Donc cette modification-là pour produire cette nouvelle version, c'est sur quel type de structure? Est-ce qu'il y a encore des salariés chez vous? Comment vous fonctionnez?
Alors justement, il y a une autre problématique aussi que j'ai cru comprendre, parce que moi je fais partie de ceux qui sont arrivés après. Je n'étais pas dans le bec numéro 1. C'est que François et l'équipe ont eu du mal à faire coexister bénévoles et journalistes pros. Du coup, lorsqu'il a voulu relancer le Bec Magazine avec ce thème-là et sur une toute autre formule, finalement, s'est dit que ce serait bien qu'on ne soit que des bénévoles pour que, justement, on n'ait plus cette problématique journaliste, professionnel et autres, puisque j'ai cru entendre que ça avait suscité pas mal de tensions. Donc, la deuxième version, on est toujours sur un modèle associatif, ça n'a pas changé. On est toujours au même endroit, c'est-à-dire à Cray, mais la deuxième version, c'est un journal thématique, comme l'a dit Marie-Joseph, et qui n'a pas d'ancrage local. On s'est beaucoup interrogé au début là-dessus, est-ce qu'on est un journal drômois ou pas? Et puis, au bout de, assez rapidement, on s'est dit, ben non, le patriarcat n'est pas un problème drômois.
Malheureusement.
Malheureusement, je dirais presque même au contraire, parce que il se passe ici des choses qui ne se passent pas ailleurs sur cette thématique-là. Donc, non, le patriarcat n'est pas un problème drômois. Donc, non, on n'a pas d'ancrage local a priori, même si, effectivement, on travaille avec les gens qui sont ici et qu'ils interviennent, que lorsqu'on fait des vidéos, ben, on les fait ici. Enfin, voilà, on est quand même situé dans la Drôme. Mais notre propos, c'est de s'adresser, comme dit Marie-Joseph, à tous les francophones du monde, finalement.
Vous aviez l'air de dire qu'une partie de la Drôme avance sur ces questions-là.
Bah oui, par exemple, quand on a fait notre numéro sexualité cet été, Benjamin, qui est notre vidéaste maison, est allé assister, enfin interviewer des gens qui étaient en stage ici dans la Drôme, dans le Val-Drôme, sur ces problématiques de sexualité avec des ateliers d'auto-observation. Enfin, c'est des choses que moi j'ai découvertes, ça fait pas longtemps que j'habite dans la Drôme. J'y ai habité il y a quelques années et là, j'y suis revenue. C'est des choses que j'ai découvertes en revenant ici, que, par exemple, il y a des ateliers d'auto-observation dans le Val-Drôme pour les femmes. Donc, il se passe quand même des choses ici qui, à mon avis, ne se passent pas partout. Bon, après, je ne suis pas allée visiter toutes les régions de France et mon propos n'est pas étayé. Hein. C'est juste un point de vue de spectatrice, mais voilà.
Est-ce que vous diriez que ici il y a le terreau quand même pour lancer ce type d'initiative et que eh bien le magazine soit effectivement complet et...
Oui, il y a un terreau, alors pas forcément sur cette question en particulier, mais il y a un terreau sur toutes sortes d'expériences et sur toutes sortes d'ouvertures à autre chose. Donc que ce soit dans l'agriculture, que ce soit du côté des féministes, enfin, il y a un terreau, c'est évident. Il y a ici des gens qui ont envie de se saisir des problématiques et qui ne sont pas dans une attitude dépressive. On est face à des gens qui ont envie de faire quelque chose. Donc on est plutôt dans la part du colibri ici. Et du coup, il y a un terreau qui fait surgir un magazine comme Le Bec.
Comment votre équipe est constituée? Surtout des femmes?
Disons qu'on a un comité de rédaction, parce qu'on a parlé de François Bouys, mais en réalité, notre structure, je dirais, n'est pas du tout hiérarchique. On est tous au même niveau. Et dans ce comité de rédaction, il y a 7 femmes et 3 hommes. Je dirais même, pour être précise, qu'on est la moitié de plus de 60 ans et la moitié de moins de 40 ans.
Il n'y a rien au milieu.
Pour l'instant, il n'y a rien au milieu. Par contre, les contributeurs extérieurs sont en situation variée. Donc, qui veut contribuer, qui est intéressé par notre thématique, peut le faire, quel que soit son âge, son sexe, la couleur de sa peau, etc. Nous sommes très ouverts.
Et en contribution extérieure, on a un homme qui écrit qu'on n'a jamais vu. On est un certain nombre à ne pas le connaître, mais qui fait partie quand même de l'équipe, puisque pour chaque numéro, il contribue. Et puis, on a des contributeurs qui commencent à devenir des habitués, donc qui n'ont pas, été sur les quatre numéros, mais qui ont été sur deux ou sur trois des quatre numéros. Et là aussi, hommes, femmes, voilà. Donc, pour l'instant, blanc, souvent cis, genre quand même. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans notre manifeste qu'on a publié sur le numéro en cours, qui est sorti fin septembre, où on dit effectivement que nous sommes toutes cis blanches, et n'hésitez pas à nous faire remarquer nos erreurs, nos maladresses, voilà, sur cette question-là.
L'âge, le fait que vous soyez, comme vous le dites, genré, est-ce que c'est un problème pour vous ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est parce qu'on est à la retraite qu'on peut enfin se poser la question sur le patriarcat ?
Non, puisqu'il y a des jeunes aussi, comme disait Marie-Josée.
On est
quand même, justement, on a... Alors, c'est vrai que sur le plan de l'orientation sexuelle, on n'est pas très... On est assez hétérogène, hétéro, donc. Mais sinon, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux... parce que l'idée, justement, c'est pas de faire un magazine féministe. Notre magazine n'est pas un magazine féministe au sens où on entend le magazine féministe qui est dans un militantisme. Alors, bien sûr qu'on porte des valeurs, évidemment, qu'on est tous d'accord pour dire que le patriarcat, ça va pas et qu'il faut qu'on en sorte, puisque c'est quand même la baseline du magazine, c'est sortir du patriarcat. Mais on n'a pas envie de dire que nous, les femmes, on a raison et que les hommes ont tort et que les hommes ne sont pas impactés surtout. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans le BEC, c'est de montrer que les hommes aussi sont impactés par le système et qu'ils se retrouvent coincés dans des représentations qui leur font pas du bien. Et ça, pour nous, c'est un point qui est très, très important. Parce qu'on ne pourra pas sortir du patriarcat s'il y a seulement les femmes qui ont envie de le faire. Il faut que les hommes comprennent que pour eux non plus, ce n'est pas intéressant. Et qu'eux aussi, ils ont intérêt. Parce que pour que les choses bougent, il faut que tout le monde ait intérêt à ce qu'elles bougent. Les hommes ne vont pas sortir du patriarcat juste si on leur dit « Oh là là, vous êtes méchants, il faut que vous soyez gentils ». Non. Ils sortiront du patriarcat s'ils trouvent l'intérêt pour eux d'en sortir. Et c'est bien ça qui pour nous est central au BEC. Et c'est pour ça que la parole des hommes est très précieuse sur cette question-là, même si des fois on se frite un peu, il ne faut pas le cacher. Mais c'est important aussi qu'il y ait ce type de frottement dans la rédaction.
Vous pourriez définir le patriarcat pour nos auditrices, auditeurs ?
Il y a deux sortes de patriarcat, en fait. Il y a le patriarcat, le terme de patriarcat tel qu'on le connaît habituellement, qui désigne une structure sociale avec le chef de famille qui dirige toute la maisonnée. C'est le sens habituel et il y a encore plein de gens qui ne connaissent le mot patriarcat que sous cette définition. Et il y a une définition plus moderne qui est une définition plus générale, c'est-à-dire une structure pyramidale avec les hommes au sommet de la pyramide et les femmes en dessous qui ont tendance à obéir. Les hommes étant contraints d'être hommes, d'être virils, d'être masculins, etc. Donc tous les hommes qui ne correspondent pas à cette définition sont... eux-mêmes dans un système patriarcal qui les avantage mais qui les opprime aussi. Et puis vous avez les femmes qui sont coincées par cette hiérarchie qui repose sur pas grand-chose. Donc nous, quand on parle de sortir du patriarcat, si dans une famille il y a un patriarche qui domine toute la famille, hommes et femmes, je dirais que c'est le problème de la famille. Par contre, quand on a cette structure patriarcale qui domine toute la société, ça devient problématique parce que on voit bien que on peut pas vivre avec que la moitié de l'humanité qui dirige le monde. Donc si on veut résoudre tous les problèmes à résoudre dans le monde actuellement, il faut que tout le monde y contribue à égalité. Donc le patriarcat, tel qu'on le définit, est dans ce sens large, que malheureusement encore peu de gens finalement comprennent dans ce sens-là.
Et j'ajouterais une chose, c'est que les hommes sont encore au pouvoir, mais c'est le masculin qui est au pouvoir. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant pour que nos sociétés évoluent beaucoup plus qu'elles ne le font, c'est que le féminin de chacun, le féminin et le masculin de chacun puissent avoir la parole, puisqu'on voit bien que lorsqu'on se réduit à notre côté masculin ou à notre côté féminin, ce qui peut aussi arriver aux femmes d'ailleurs, hein, on voit bien des femmes chefs d'entreprise qui ont été obligées de se déguiser en hommes, ou du moins que la société a contrainte à se déguiser en homme. Et du coup, l'action à ce moment-là est beaucoup moins intéressante que quand la personne développe ses deux côtés. On voit bien qu'il y a une richesse là qui est absolument incomparable. Voilà. Donc, c'est intéressant pour tous, si on revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la composition de l'équipe, de s'interroger sur ces questions-là pour que tous et toutes, nous puissions donner les deux côtés de nous-mêmes pour faire avancer nos familles, nos relations, notre petit coin ici dans la Drôme et puis plus largement des sociétés dans leur entier.
Si on part du principe que le patriarcat est un système, il supplante tous les autres systèmes de société, que ce soit des dictatures, la gauche au pouvoir, la droite au pouvoir, il y a toujours le patriarcat au-dessus.
Au-dessus ou au-dessous ? Moi, je dirais qu'il les sous-tend plutôt qu'il ne les supplante. C'est-à-dire que les supplanter, ça voudrait dire qu'ils seraient installés en tant que système reconnu et identifié. C'est le cas, mais de manière non dite. Il est derrière, il est en arrière-plan de tout ce qui se passe. Et en arrière-plan, il est encore beaucoup plus nocif, puisque justement, il est en arrière-plan. Il avance un peu masqué, toujours. Il ne s'affiche pas. On ne dit pas officiellement « les hommes ont le pouvoir et les femmes, vous restez devant les casseroles ». Non, ça n'est pas dit officiellement. Mais c'est toujours en arrière-plan de effectivement, dictature, système politique, la gauche, la droite. Enfin, voilà. On a toujours
dans
ce système-là
derrière. Des religions également.
Des religions, absolument.
Donc, c'est quand même quelque chose qui est emporté avec l'humanité depuis très, 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 très longtemps. Même si ce n'est pas vraiment dit.
Ça l'est dit parfois. Hein,
ouais, quand même. Bah, non, mais je reprenais vos termes, justement. Ce serait comme ça un peu insidieux. Moi, j'ai l'impression que ça ne l'est pas tant que ça. Est-ce que vous sauriez pourquoi c'est comme ça ? Qu'est-ce qui fait que l'humanité se bloque dans ce système ? Et peut-être comment on en sort ?
Alors, les origines du patriarcat, c'est mon sujet de recherche actuellement. J'ai fait dans le bec un certain nombre d'articles qui réfléchissent aux origines du patriarcat, à la notion de masculin-féminin. Quand on essaye de voir les études qui ont été faites par des chercheurs, des préhistoriens, des anthropologues, des sociologues, on se rend compte qu'il y a des interprétations multiples sur les origines. Et je pense que pour l'instant, si on veut être un petit peu scientifique et pas seulement dans le relationnel et l'émotif, on se rend compte que les origines réelles du patriarcat, on les ignore en fait. Depuis quand ça existe ? C'est pas évident que du temps de Néandertal, il y ait déjà du patriarcat. C'est pas évident que du temps des chasseurs-cueilleurs, d'avant le néolithique, il y ait du patriarcat. À partir du néolithique, ça commence à devenir évident qu'il y ait du patriarcat. Et à partir des religions constituées, c'est évident qu'il y a du patriarcat, que ce soit dans ce qu'on appelle les religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, l'islam, mais aussi dans le bouddhisme ou l'hindouisme, c'est évident que c'est l'homme qui dirige. Par contre, il y a dans certains endroits du monde ou à certaines époques du monde des sociétés peut-être plus égalitaires et surtout des femmes qui ont pu avoir des actions de dirigeantes ou qui ont impulsé des choses ou qui ont fait de la recherche sur un certain nombre de choses et qu'on a oublié. Le patriarcat, c'est une belle gomme à effacer, le rôle des femmes dans notre société. Les chercheurs actuellement sont en train de relire tout ce qui a été dit dans le passé, revoir toutes les preuves archéologiques pour montrer que le rôle des femmes a été assez systématiquement sous-estimé et oublié. Ça, c'est une réalité. Par contre, qu'il y ait eu des sociétés matriarcales telles que certains en ont rêvé, c'est pas évident. En tout cas, le matriarcat qui serait l'inverse du patriarcat, je pense que ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de femmes qui ont dirigé les hommes comme les hommes ont dirigé les femmes. Donc c'est une réalité historique. Par contre, maintenant, on a une certitude, c'est qu'on ne voit plus les choses de la même manière. On ne peut plus justifier la domination de l'homme sur la femme par l'intelligence supérieure de l'homme, la force supérieure de l'homme, les compétences supérieures de l'homme. On voit bien que maintenant que les femmes ont le droit de vote, les femmes ont le droit d'agir, elles ont le droit de faire plein de choses sans l'autorisation du mari ou du père, on voit que concrètement, l'homme et la femme peuvent être parfaitement égalitaires. Par contre, il y a un conditionnement social qui existe encore maintenant, qui fait que quand on est un petit garçon ou quand on est une petite fille, on va vous conditionner à devenir un vrai mec ou une vraie femme. Et ça, on s'interroge de plus en plus là-dessus. Donc, qu'il y ait des différences sexuelles, des différences biologiques, c'est une certitude. Par contre, la notion de genre, maintenant, on sait que c'est quelque chose de très culturel.
Mais alors, comment on en sort ? Parce que alors, vous parlez de la déconstruction de la masculinité. Est-ce qu'on parle aussi de division de tâches ? Comment, en fait, ce conditionnement, on peut arriver à l'abolir, finalement ?
Alors, justement, ça va me donner l'occasion de reparler de notre journal.
C'est le sujet.
Voilà, parce que dans le bec, justement, l'idée, c'est d'arriver à en sortir en prenant pour principe qu'il faut que tout le monde se rende compte des choses, prenne conscience. Les femmes, que nous prenions conscience aussi des moments où nous nous conduisons, comme disait tout à l'heure Marie-Joseph, comme des vraies filles, des vraies femmes, c'est-à-dire des moments où on est dans des stéréotypes
des fausses femmes, alors.
De genre et non pas dans une attitude d'être humain non genré, on va dire. Et puis les hommes aussi, qu'ils prennent conscience des moments de leur vie où... voilà. Donc c'est important pour nous d'avoir dans le journal à la fois des articles scientifiques qui reposent sur des choses reconnues, objectivées, etc. Mais aussi beaucoup de témoignages. Pourquoi les témoignages ? Ben parce que, justement, le problème des journaux qui existent déjà et qui évoquent cette question-là, c'est qu'ils s'adressent à un public qui est dans une bulle, en fait. Les journaux féministes s'adressent aux féministes. Nous, on a envie de s'adresser à tout le monde. Et pour s'adresser à tout le monde, il faut que les gens puissent se reconnaître. Et qui se disent pas, oh là là, je vais pas lire ça parce que non, moi je suis pas féministe, moi je suis pas du tout quelqu'un de bien, je fais pas tout ce qu'il faut pour être bien. Donc voilà. Donc du coup, pour nous les témoignages c'est absolument essentiel. Et c'est vrai qu'on a nous-mêmes qui sommes dans le comité de rédaction, nous écrivons parfois des articles qui sont des témoignages. Et puis, nous avons des contributeurs extérieurs qui peuvent parfois écrire des articles d'analyse, mais qui aussi nous envoient des témoignages. Par exemple, sur le numéro de septembre qui était axé sur la parentalité, on a eu des hommes qui nous ont raconté comment ils étaient pères et comment ils étaient pères dans un contexte post-MeToo. C'est-à-dire comment je fais aujourd'hui pour élever mon petit garçon, ma petite fille, en ayant conscience comment je fais pour avoir une relation équilibré avec ma compagne. Voilà, ça, ça nous intéresse parce que du coup, ça veut dire que nos lecteurs vont se sentir à la hauteur. Ils ne vont pas se retrouver dans un endroit, dans un univers qui leur est étranger. Et je pense qu'il y a une place pour un journal comme le nôtre et que, en toute modestie, hein, parce qu'on est... Il n'y a pas d'autre journal que le nôtre qui parle de ça de cette manière-là. Quand on lit Cosette, par exemple, qui est un journal que j'adore, hein, Cosette, c'est quand même un journal qui s'adresse essentiellement aux filles. Les hommes qui lisent Cosette sont des hommes qui ont déjà fait du chemin. Voilà. Et il y a des lecteurs.
Cosette est hyper genrée.
Voilà. Absolument. Donc, nous, on essaye de se placer, justement, à la hauteur de l'homme et de la femme lambda qui ont pris conscience d'un certain nombre de choses, ou pas, mais qui ne se sentent pas complètement nuls en lisant nos articles.
Alors, est-ce que les hommes vous lisent ?
Alors, c'est difficile hein, de savoir qui nous lit. Nous, on a juste le nombre de clics.
Ah oui.
Savez-vous si le public du Bec originel a réussi à suivre ?
Pas beaucoup, apparemment.
En partie.
Voilà.
Alors, quel est votre nouveau public ?
On ne sait pas, en fait. On a des gens qui nous ouvrent aux États-Unis, dans des grandes villes de France. Enfin, on a des clics qui viennent de partout, mais c'est complètement irréel, tout ça. Parce que un clic, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne a vraiment lu ou pas ? Même ça, on ne le sait pas. On sait à peu près combien de temps il reste, mais qu'est-ce qu'ils ont lu ? On ne sait pas. Enfin, on n'a pas de retour. On lance quelque chose sur la toile comme ça, et puis...
Il faut dire que le Bec est quand même jeune. Le premier numéro, qui était un numéro zéro, il date de mars 2021. Donc, le Bec paraît tous les deux mois, donc nous en sommes seulement au quatrième numéro. Donc, pour savoir le succès du Bec, il nous faut un peu de temps aussi.
Vous aviez parlé de l'importance de ces témoignages pour, quelque part, une sorte d'éducation par les pairs, d'éducation très, voilà, très populaire. Et bon, les gens contribuent, écrivent, se lisent eux-mêmes, sans doute. Enfin, à un moment donné, il y a une transmission qui se fait comme ça, de manière beaucoup moins verticale, justement, pyramidale. Vous-même dans votre fonctionnement. Est-ce que, pour autant, la partie historique, moi, qui m'intéresse beaucoup, ne devrait pas faire partie pleinement de ce qui permettrait de comprendre pourquoi on est encore ancré dans le patriarcat ? Et là, principalement, les religions qui ont, en fait, semblent avoir créé ce problème-là, ce genre. Est-ce que... c'est parce qu'on croit moins, qu'on est moins fidèle, moins dans la foi écrite, qu'on arrive à se poser ces questions-là maintenant sur le patriarcat, alors qu'avant, on s'en rendait peut-être à peine compte.
Ben, on a réfléchi sur plein de choses et la vision du monde s'est ouverte, je dirais, depuis le 18e siècle. Il y a une montée de la science, il y a une montée de la réflexion sur la démocratie, des choses comme ça. Donc, une réflexion sur les rapports humains, c'est une réflexion qui aboutit à des changements politiques. En France, on a guillotiné nos rois. Mais c'est une réflexion qui aboutit à des changements de société dans les rapports hommes-femmes. Donc, je ne pense pas que cette ouverture à une critique du patriarcat est forcément liée à une déchristianisation, par exemple. Le patriarcat a existé avant que les grandes religions existent. Cette domination de l'homme sur la femme, elle date du néolithique. Les grandes religions sont plus récentes.
Et après, dans l'histoire, le féminisme a connu plusieurs vagues. Donc là, pour ceux qui sont encore vivants aujourd'hui, on a connu deux grandes vagues. La vague des années 60, avec le mouvement de libération des femmes et un certain nombre de conquêtes qui ont démarré après-guerre avec le droit de vote, la contraception, le droit à l'avortement. Et puis la deuxième vague qu'on connaît aujourd'hui et qui est clairement liée au mouvement MeToo. Ce mouvement qui a infusé dans la société de manière assez phénoménale finalement, parce que c'est passé par la toile et que tout ce qui passe par la toile est phénoménal par définition. Donc du coup, ça a fait prendre conscience d'un seul coup à beaucoup de gens que le combat féministe des années 60 avait certes abouti à des victoires, mais que ce combat devait absolument perdurer, puisque nous sommes toujours dans un système qui, de fait, est fondé sur le patriarcat et que, du coup, on ne doit jamais baisser les bras. Quand je dis « on », je ne parle pas seulement des femmes, je parle aussi des hommes. C'est-à-dire qu'on a cru que le mouvement de libération des femmes et le féminisme années 60 avaient vaincu et que ça y est, les choses étaient faites et que du coup, on n'avait plus rien à faire. Et ça a été un choc terrible. Pour des gens de ma génération, par exemple, ça a été un choc terrible. Parce que nous, on a eu des filles après le MLF, on a cru les élever en leur inculquant un certain nombre de valeurs, etc. Et on ne s'est absolument pas rendu compte qu'en fait, notre révolution intérieure n'avait pas été suffisante. Et du coup, nos filles, puisque c'est la génération de mes filles, MeToo, nous disent d'un seul coup qu'elles ont été violées, brutalisées, alors que nous avions cru les élever de sorte qu'elles soient des femmes libres et autonomes et qu'elles ne subissent plus de violence.
Comment vous l'expliquez ?
Bah, je l'explique parce que la révolution intérieure n'a pas été suffisante. C'est-à-dire qu'on a pensé que, en gagnant le droit de travailler, en gagnant le droit d'ouvrir un compte en banque et en gagnant le droit de prendre la pilule et de coucher avec qui on veut, on a pensé que c'était gagné, qu'il n'y avait rien d'autre à faire. On ne s'est pas rendu compte qu'en fait, nous étions formatés, nous, par une éducation qui, de fait, nous rendait, par exemple, la notion de consentement complètement étrangère. Important, hein. Le consentement, moi j'ai découvert ce mot il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'on était quand même imprégné du fait que bon, bah, de toute façon, c'était comme ça. Que les hommes ont une sexualité comme ça, que nous on a une sexualité comme ça. On était encore fondé sur ce type de principe. Et du coup, on n'a pas protégé comme on croyait l'avoir fait. On a appris à nos filles à faire des études, à bien réussir, à être autonomes financièrement, à coucher avec qui elles voulaient. Oui, tout ça, on l'a fait, mais ce n'était pas suffisant.
C'est-à-dire donc à se déguiser en homme ?
Oui, quelque part. C'est pour faire vite, oui. Oui, c'est un peu ça. Et on n'est pas allé chercher vraiment ce qui, en nous, devait être extirpé pour qu'on se retrouve des êtres humains libres et autonomes.
Mais alors, pour se retrouver en être humain libre et autonome, ça ne serait pas de prendre la chose par l'autre bout et en fait faire une éducation des petits garçons. Je ne sais pas, le consentement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il existait avant même le mot, finalement ?
Non, bien sûr, sauf que... Évidemment que ça passe par l'éducation, bien sûr. Ce que je voulais dire par là, je crois que c'est très difficile à expliquer finalement. C'est que les femmes de ma génération se sont construites dans l'idée que les sexualités masculines et féminines étaient figées, que c'était comme ça, que c'était gravé dans le marbre. Et donc, la question du consentement ne se posait pas comme elle se pose aujourd'hui. C'est-à-dire que si on était dans un acte sexuel non consenti, bon, c'était un petit peu de l'ordinaire des choses. Les mecs fonctionnent comme ça. Bon, voilà. La différence avec nos mères, c'est qu'on n'y restait pas dans l'acte sexuel non consenti. Voilà. On avait franchi ce cap-là que de se dire, bon, moi, ça, j'en veux pas, je m'en vais. Mais n'empêche que la question du consentement ne se posait pas comme elle se pose aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je réalise que, oui, on peut dire non jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors que on se disait, nous, ah ben, puisque je suis là, de toute façon, faut que je subisse. Hein. J'attends que ça se passe. Après, je me barre et je reviens pas. OK. Mais n'empêche que je subis. Et c'est ce travail-là qui n'a pas été fait Il ne s'agit pas de s'auto-flageller, hein, les choses se font par étapes. On a avancé par rapport à la génération précédente quand même, hein. Donc c'était déjà pas mal. Mais il faut encore qu'on avance. Et c'est, moi en tout cas personnellement, le mouvement MeToo m'a vraiment révélé des choses que je n'avais pas du tout envisagées avant. Donc je pense que je n'ai pas été la seule, à mon avis, puisque moi ça m'a révélé des trucs. Donc je pense que ça a dû en révéler aussi un certain nombre d'autres gens. Et du coup, c'est venu se diffuser dans une société qui pensait que les choses étaient faites et que oui, les femmes maintenant, elles avaient toutes sortes de droits et bon, voilà, ça allait quoi.
Et on ne parle que des sociétés occidentales riches et blanches pour bien rester dans le genre. Patricia, Marie-Joseph, pour Le Bec, ce magazine, alors vous le publiez à quelle fréquence? Comment on le consulte? Comment ça marche?
Le Bec est donc un magazine numérique qui paraît tous les deux mois. Le dernier numéro est paru en septembre. Le prochain paraîtra à la fin du mois de novembre. Et pour le consulter, c'est sur Internet, www.lebec.media.
Pourquoi Le Bec?
Les trois becs, voyons. Ah. D'ailleurs, il y a une petite anecdote marrante, c'est que c'est une Anglaise qui a trouvé ce nom qui était dans le premier magazine. Malheureusement, elle n'a pas pu rester avec nous parce qu'elle est trop occupée, mais ça l'aurait beaucoup intéressé de continuer dans l'équipe actuelle. Mais voilà, en tout cas, c'est elle et si elle nous écoute, elle se reconnaîtra.
Je voudrais préciser, parce qu'on a parlé de sujets très sérieux, qu'en réalité, Le Bec est multiple, non seulement par la composition des personnes qui en font partie, mais il est multiple dans sa forme, c'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont très humoristiques. Il y a des dessins, il y a, par exemple, on peut voir des dessins du Kama Sutra. Il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des poèmes, il y a des analyses, il y a des témoignages. Tout ça, c'est très, très varié. Donc, quelqu'un qui veut apprendre des choses, il peut trouver des articles qui analysent le patriarcat ou des analyses sur le patriarcat dans l'art. Mais il y a aussi plein de témoignages qui sont courts. Il y a des articles qui sont courts, il y a des articles qui sont longs, il y a des articles qui sont sérieux, il y a des articles qui sont amusants, il y a des articles qui sont lyriques. C'est très, très varié. Il y en a pour tout le monde. Enfin, pas pour les enfants, mais...
Comment s'amuse-t-on avec le patriarcat?
Mais par exemple, avec les bandes dessinées que nous envoie régulièrement Jacques-Rémy Gérard, qui est un fondateur de Folle Image, si, pour ceux qui connaissent.
Réalisateur de films.
Réalisateur de films, absolument, et qui nous fait des BD tordantes autour de nos thèmes. On peut rire aussi en voyant les vidéos où, par exemple, l'un de nous va à la rencontre des gens dans une casse automobile et demande aux gens qui sont là, pour eux, c'est quoi le patriarcat? Donc là, on a des réponses assez cocasses. Oui, il y a plein de moments où on rigole bien quand même. C'est pas seulement un sujet sérieux. Et...
Il y a les articles de Tobu qui sont toujours comiques.
Absolument. On a
décalé.
Donc, voilà, ça c'est un de nos... Moi, je dirais pas contributeur parce qu'il écrit dans tous les numéros. On le connaît pas, on l'a jamais vu, il habite pas
oui,
là.
Vous
mais
en parlez.
Voilà. Et lui, il est extrêmement drôle. Chaque fois, il écrit un papier sur le thème central qui nous occupe. Et à chaque fois, c'est très, très, très rigolo.
Comment devient-on contributeur chez vous ou contributrice?
Bah, c'est très simple. On va sur le site internet. Dans le site, il y a une rubrique contact ou contributeur. Et on explique qu'on a envie de dire des choses d'une manière ou d'une autre. Et puis, à ce moment-là, on envoie ce qu'on a fait. Et le comité de rédaction... approuve ou fait des remarques ou refuse, ça dépend de ce que la contribution, de l'allure de la contribution.
Qu'est-ce que vous censurez?
Alors, on ne censure pas, On a publié tout là, jusqu'à maintenant. Il y a juste un papier qui nous est arrivé cet été, un texte qui était très très intéressant, mais le problème c'est le décalage dans le temps, c'est-à-dire que le texte est arrivé au milieu de l'été, au moment où on a commencé à entendre parler de la problématique du cycle menstruel bouleversé par la vaccination contre le Covid. Donc cette dame nous envoie son texte, un texte super dans lequel elle raconte ce qui s'est passé dans le cabinet de son médecin, comment elle a appris qu'il pouvait y avoir un problème, comment elle a cru qu'elle était enceinte alors qu'elle ne l'était pas, enfin, comment le sujet a été géré par son médecin. Et on sait que c'est compliqué pour nous les filles, des fois, le médecin. Donc elle nous envoie ce texte très bien, sauf qu'entre-temps, tout le monde en a parlé. C'est-à-dire que fin juillet, il y a eu l'ARS qui a commencé à communiquer. Après, France Télé, même France Télé s'y est mis. Enfin, tout le monde en parlait. Et au moment où elle écrit, personne n'en parle. Donc forcément, son article, il est quand même très remonté, à juste titre, pour dire, attendez, on est en train quand même de nous vacciner contre une maladie qui... Et ce vaccin a l'air d'avoir des conséquences qui peuvent être assez graves sur nous. Donc voilà, très remonté. On ne dit pas il faut qu'elle le change. On propose juste de rajouter, à la fin ou au début de l'article, que... Entre-temps, effectivement, le problème a été pris en compte, histoire qu'on ne publie pas au mois de septembre quelque chose dont tout le monde a déjà entendu parler depuis la fin du mois de juillet. Voilà. Et puis du coup, entre-temps, elle avait trouvé un autre endroit où publier, elle a été publiée ailleurs. Mais sinon, on a publié tout jusqu'à maintenant.
Il y a quand même une exigence de qualité, c'est-à-dire que si on nous envoie un podcast qui est inaudible parce qu'il a été mal fait techniquement, si on envoie une vidéo où ça tremble trop, si on écrit, on nous envoie un texte qui est vraiment mal écrit, il y a une exigence de qualité technique.
Voilà, donc là, vous allez plutôt avoir tendance à amener la personne à faire mieux.
Si c'est corrigeable, effectivement. Par contre, quelqu'un qui nous enverrait un texte haineux, par exemple, un texte trop agressif, un texte trop engagé politiquement, par exemple, je ne pense pas que le comité de rédaction l'accepterait aussi. On est ouvert, on est pluriel, mais ça n'est pas un média militant d'une seule version.
Est-ce qu'il y a un patriarcat politique, vous diriez?
Non, il s'agit juste de ne pas asséner des vérités comme étant des vérités. À partir du moment où c'est un point de vue, et qu'il est exprimé dans des termes mesurés et en des termes non agressifs, je dirais, pour être clair. Voilà, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, à part cet épisode que je vous ai raconté, on n'a pas eu de problème. C'est-à-dire que lorsque des textes nous ont paru pouvoir être corrigés, on l'a fait. Ça s'est bien passé avec les auteurs qui ont un petit peu modifié, ou alors on a changé un titre... Voilà, ou alors voilà, des choses comme ça. Mais comme on peut le faire aussi entre nous dans le comité de rédaction, puisqu'on travaille avec Google Drive, donc on pose nos textes et puis chacun va mettre son commentaire, on change pas, on discute, voilà. Donc avec les contributeurs, ça se passe de la même manière. Et jusqu'à maintenant, et c'est là que je trouve que, on en parlait avant de venir à l'émission avec Marie-Joseph, on se disait que le groupe est particulièrement riche et qu'on se tire entre nous vers le haut, et j'ai l'impression qu'on tire aussi nos contributeurs vers le haut. C'est-à-dire que ce qu'on reçoit n'est pas décalé, n'est pas... les gens... Enfin, on ne demande pas une littérature. Enfin, si vous allez voir le site, vous verrez qu'il y a toutes sortes de styles. Je veux dire, on n'est pas... Voilà. Mais les gens ont bien compris dans quel style ils pouvaient se positionner. Et du coup, lorsqu'ils nous envoient des contributions, je pense, je mets au défi un lecteur d'être capable de dire « ça, c'est le comité de rédaction, ça, c'est un contributeur ». Tellement, finalement, les gens arrivent à rentrer... dans notre histoire et du coup à se positionner parce qu'il y a aussi des styles différents.
Parce que vous ne signez pas ?
Si, bien sûr. Ah. Oui, oui, on signe. Alors justement, là, ça a été une des discussions sur le numéro qui vient de sortir fin septembre. où on s'est dit, on va mettre les signatures en haut maintenant. Donc ça y est, on voit nos noms, c'est bien identifié, beaucoup plus que ça ne l'était. On signe depuis le début, hein, mais là, les noms apparaissent sur la une du journal.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir de magazine, hein.
Bien sûr, que le BEC soit plus connu, avec plus de lecteurs, et que ces lecteurs puissent réagir aussi. C'est toujours intéressant quand on passe pas mal de temps à chercher et à produire quelque chose, qu'on nous dise si ça plaît, si ça plaît pas, qu'on réagisse. Donc plus de lecteurs et plus de réactions.
On retrouve le BEC sur ce site internet, lebec.media.
Si on tape le BEC Magazine, on tombe directement sur nous parce qu'on est
Avec ce petit logo qui sourit.
D'un BEC qui sourit.
Marie-Joseph, Patricia, merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Vous revenez quand vous voulez pour qu'on suive encore un peu l'évolution de ce magazine. Majdou, merci également pour tes questions et belle journée.
Merci.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.